Bonjour. Aujourd'hui, le sujet de la méditation qu'on va voir ensemble, c'est comment faire confiance à Dieu. Puis on commence avec la première question, faites-vous confiance à Dieu? Et quand on regarde dans notre vie, dans l'ensemble des décisions qu'on a à prendre à chaque jour, l'ensemble des choses qu'on a à traverser de jour en jour, des souffrances, des maladies, des problèmes de toutes sortes, est-ce qu'on a appris à faire confiance à Dieu? Est-ce qu'on remet toute notre vie entre les mains de Dieu, puis qu'on a comme une paix intérieure, comme une attente intérieure de dire « Dieu va pourvoir à ma vie, il va pourvoir à tout ce que je passe à travers, parce que Dieu m'accompagne, Dieu est avec moi, Dieu va me bénir, etc. » Il y a beaucoup de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, comme leur Seigneur et sauveur, puis ont compris, puis ont décidé de faire confiance à Dieu pour leur salut, pour se dire, « Ben, moi, je suis pardonné de mes péchés à cause de que j'ai mis ma confiance, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. J'ai confiance à Dieu que j'ai la vie éternelle. Je crois que Dieu va m'amener dans son ciel. » Puis il y a même un jour où ce que Dieu va venir nous chercher, où ce que j'ai confiance que Dieu va venir nous chercher. On a un paquet de confiances qui sont là pour des choses du futur. Dieu va m'amener au ciel, Dieu va me pardonner, Dieu va me donner la vie éternelle, Dieu, il va me faire entrer dans le paradis, il va me donner des bénédictions éternelles, il va faire ci, il va faire ça, Dieu va revenir me chercher, etc. On a confiance en Dieu pour les choses dans le futur. Mais qu'en est-il de notre confiance à Dieu pour les choses de la terre, pour les choses présentes, pour les choses que nous vivons chaque jour? Parfois, dans notre vie, tout va bien, puis on se pense qu'on est capable de tout faire par nous-mêmes, comme un passage qui nous est relaté dans Actes 27, 13, ça nous dit, c'est Paul qui était sur un bateau, puis que les gens étaient comme dans un temps de la navigation était difficile, c'était un temps où la période de l'année était avancée, puis le temps de l'hiver était là, puis il y avait beaucoup de tempêtes en hiver, puis à un moment donné, ils ont eu un petit calme pendant leur voyage, puis là, ça nous dit dans Actes 27, 13, un vent léger vint du sud, vient du sud, puis il se met à souffler, puis se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre, puis ils côtoyèrent de près l'île de Crète. Est-ce que nous nous sentons maîtres de notre dessein, de notre plan, de notre destin, de notre vie terrestre? Est-ce qu'on se dit, ah, ben moi, je suis quand même capable, j'ai de hautes études, j'ai été faire mes diplômes à telle et telle école, puis je me sens intelligent, je me sens instruit, je suis au courant de ce qui se passe autour de moi, je maîtrise ma vie, je prends des bonnes décisions, je fais attention à ma santé. Est-ce qu'on se croit dans une assurance que nous sentons que nous sommes capables de gérer notre vie tout seul? Est-ce qu'on sent qu'on sent maître de notre plan, de nos buts, de nos objectifs, qu'on se dit, moi, là, j'ai fixé telle et telle chose comme but, puis je m'en vais par là, puis je vais faire ci, je vais faire ça. Est-ce qu'on se sent dans cette attitude-là, ou même arrivé à un point que certaines personnes, ils se pensent autosuffisantes? Puis là, on parle à des chrétiens aussi, là. Dans Apocalypse 3:18, dans ce passage-là, ça s'adresse vraiment à une église qui refroidit spirituellement, parce que, justement, elle se pensait capable de tout faire par elle-même. Dans Apocalypse 3:17, le reproche que Dieu lui dit à cette église-là, il dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien, et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est qu'il y a des chrétiens qui peuvent arriver non seulement qu'ils sentent maître de leur dessein, mais en plus de ça, ils vont penser qu'ils ont atteint un certain niveau de spiritualité, puis ils se pensent autosuffisants. Ils se pensent capables. Ils vont dire, je suis riche, on a une grosse église, on a beaucoup d'argent en banque, on est enrichi, on n'a pas besoin de rien. La personne ne sent plus sa misère, sa détresse, une personne qui sent plus qu'elle est dépendante de Dieu, puis qu'elle se dit, nous avons réussi, nous avons atteint, nous sommes rendus à tel niveau, nous avons tel et tel confort, nous avons un gros compte de banque, nous avons l'assurance que rien peut nous arriver. On n'est plus dans un état de dépendance ou d'attente de la part de Dieu. Dieu lui répond, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez-vous, l'ignorance de nos besoins réels, je parle pas de ce qu'on ressent, parce que quand on a un gros compte de banque, on se sent en sécurité par le compte de banque, mais on sait pas que notre position réelle devant Dieu, que nous sommes pauvres, misérables, aveugles et nus, que nous réalisons pas que c'est Dieu qui pourvoit tous nos besoins, que c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous rouvre les portes, que c'est Dieu qui nous bénit. Puis là, au lieu de remettre la gloire à Dieu, puis continuer à avoir des attentes sur Dieu, on considère les choses acquises, les biens acquis, la richesse acquise, puis on met notre sécurité là-dedans. Puis on dit, moi, je suis dans un pays qui est quand même prospère, je suis dans un temps d'abondance, puis tout va bien, puis on arrête de prier, on arrête de demander à Dieu. Puis on se pense qu'on a atteint des niveaux de spiritualité élevés. Puis Dieu considère ça comme un refroidissement. Nous sommes rendus tièdes au point de vue de Dieu. Puis là, Dieu nous demande de faire le choix. Décidez-vous si vous voulez. Soyez bouillant pour moi ou soyez froid. Restez pas entre les deux parce que cette position-là d'autosuffisance va être rejetée par Dieu. Dans le passage, si vous irez voir Apocalypse 3, un petit peu plus loin, il dit qu'il va être vomi de la part de Dieu. Il va être rejeté de la part de Dieu. Dieu veut pas qu'on se pense qu'on est capable, qu'on a atteint, puis qu'on n'a plus besoin. Nous avons continuellement besoin de la présence de Dieu. Mais même à une échelle un peu moins élevée, souvent on planifie beaucoup de choses, puis on pense de tout régler par nos capacités. On pense qu'on est capable de tout décider des choses par nous-mêmes sans consulter Dieu. Puis là, on planifie des choses, puis on se dit, on va faire ci, on va faire ça. Dans Jacques nous parle de ce passage-là, au chapitre 4, le verset 13, puis il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Jacques leur dit, vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voyez-vous, ça arrive à tout chrétien de passer des moments comme cela où ce qu'on se pense qu'on est capable, qu'on peut prendre des décisions par nous-mêmes, puis que là, on va se dire, ben moi, j'ai comme projet, je m'en vais dans telle ville, je vais gagner de l'argent, je vais y passer tant de temps, puis je vais faire des arrangements financiers, je vais travailler dans telle compagnie, je vais faire de l'argent, puis je vais pouvoir faire ci, faire ça. Voyez-vous, ça, c'est des pensées orgueilleuses, des pensées que la Bible déclare. De notre propre capacité humaine, nous pensons que nous sommes capables d'arriver à quelque chose et de décider de ce qu'on fera et de décider ce que nous allons gagner puis que ce que nous allons faire. C'est parce qu'on oublie un aspect de notre vie qu'on n'est pas maître de notre destin. On n'est même pas maître de notre souffle. Notre vie nous est prêtée, puis notre famille nous est prêtée, notre santé nous est prêtée, nos enfants nous sont prêtés, nos biens, notre travail, notre richesse nous est prêtée. C'est juste pour un temps que Dieu nous a mis ça entre les mains. On ne sait même pas si on va être encore là demain pour profiter de toutes ces choses-là. On est comme juste une vapeur qui va paraître pour un temps, puis ensuite va disparaître. C'est ça qui est l'état réel de la vie de chaque être humain. Même si on porterait le nom du plus grand évangéliste sur la terre, nous devons réaliser que nous n'avons pas de capacité par nous-mêmes et que tout vient de Dieu. Jacques nous encourage à dire, on devrait dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Parce que c'est encore Dieu qui décide si nous allons être là demain ou si nous ne serons plus là demain. Puis c'est Dieu qui décide aussi si on va faire ceci ou cela. C'est Dieu qui va nous donner la force, la capacité, les ouvertures des portes, qui va nous bénir, qui va pourvoir, ou que Dieu va permettre que nous rentrions dans des attaques, dans des tentations, dans des épreuves, et que nous allons avoir passé à travers par la foi. Dieu contrôle notre destin. Nous ne sommes pas maîtres de notre dessein, de notre plan, de notre destin. Puis on n'a pas atteint des niveaux par notre propre capacité. C'est Dieu qui nous rouvre les portes. C'est Dieu qui pourvoit tous nos besoins. C'est Dieu qui veut qu'on planifie, mais avec lui. Il veut qu'on apprenne à dépendre de lui. Il n'a pas dit de ne pas rien planifier, mais il a dit qu'on devrait dire au contraire, si Dieu le veut, puis si Dieu le veut, il va se passer telle et telle chose. Si Dieu le veut, on va faire ci, on va faire cela. Parce que c'est Dieu qui va nous ouvrir les portes. Jésus nous a dit dans Marc 11, 22, Jésus a pris la parole puis leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez pas foi en votre capacité, ayez pas foi en votre famille, ayez pas foi à vos ressources financières, ayez pas foi parce que vous avez un bon médecin, ayez pas foi parce que vous avez une grosse église, ayez pas foi à cause que vous avez un automobile à la porte, vous avez un bon emploi puis un bon compte de banque. Ayez pas foi dans les choses qui vous entourent. Faut apprendre à mettre notre foi en Dieu. Quand Jésus dit ça, c'est parce qu'il veut qu'on apprenne. C'est pas automatique de mettre notre foi en Dieu. Faut apprendre à faire confiance à Dieu en toutes choses. Mettons-nous notre confiance en Dieu pour notre nourriture, pour notre habillement, même si on a de l'argent en banque. Il pourrait arriver un crash économique, puis demain matin, il n'y a plus rien. Plus d'argent en banque. Puis il n'y a plus de magasins qui ont de ressources. Il y a eu des pays, puis il y a encore des pays présentement qui n'ont pas de linge dans les tablettes. Ils n'ont pas de nourriture dans les tablettes dans les magasins. Ils n'ont plus rien à manger. Est-ce qu'on met notre confiance à Dieu pour un travail? Si vous avez un bon travail, puis il est encore là, faut remercier Dieu, mais il faut faire confiance à Dieu que demain notre travail soit encore là. Et si nous perdons notre travail, faut apprendre à mettre notre confiance en Dieu qui va nous pourvoir un autre travail. Est-ce qu'on fait on met notre confiance en Dieu pour l'achat d'une automobile, mettons? Parce que ça arrive des fois, on a des décisions importantes à prendre, puis souvent, si on a un gros compte de banque, on ne soucie même pas de demander à Dieu qu'est-ce que Dieu nous guide vers l'achat d'une automobile, qu'il nous rouvre les portes. Parce que si on apprend à faire confiance à Dieu, Dieu va nous mettre des signes devant nous pour nous montrer quelle est l'auto qu'on doit acheter. On ne sait pas quoi faire. On pourrait prendre toutes les autos qu'il y a devant nous sans prendre la bonne. C'est la même chose pour pourvoir un conjoint. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas consulté Dieu, puis ont décidé de se marier, se sont engagés, puis ils n'ont pas pris, ils ont été mal mariés, ils n'ont pas été mariés avec la bonne personne, puis ça a créé un paquet de problèmes pour toute leur vie. Est-ce qu'on fait à Dieu pour nos guérisons? Nous sommes malades, je suis d'accord qu'on peut avoir un très bon médecin, on a besoin d'une opération, on peut avoir un très bon chirurgien qui va nous soigner. Mais est-ce qu'on a appris à mettre notre confiance en Dieu, puis de prier Dieu pour cette situation-là, puis de la remettre dans les mains de Dieu, puis de s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose? Est-ce qu'on prie Dieu quand ça va mal dans notre couple, où on est prêt à aller consulter des psychologues? Je dis pas qu'il faut pas aller les voir, les psychologues, mais il faut quand même mettre ça dans les mains de Dieu en premier, parce que Dieu est capable de régler beaucoup de choses. Il peut tout régler. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Est-ce qu'on a appris à mettre notre confiance en Dieu pour la planification de nos projets, de nos ministères, de tout ce qu'on entreprend à l'Église, dans tout ce qu'on va entreprendre comme activité dans l'œuvre de Dieu, de ce qu'on espère que notre famille vienne au salut, puis tous les soucis qu'on se donne, les casse-têtes, est-ce que mes enfants vont accepter Jésus comme leur sauveur personnel? On se casse la tête, mais il n'y a rien qu'on peut faire par nos inquiétudes, par nos soucis, par nos efforts personnels. Oui, par nos efforts, on peut faire des choses, certaines choses, on va en voir des choses dans comment arriver à vraiment mettre notre confiance en Dieu. Mais dans la base, si je vais juste par mes inquiétudes, mes soucis, puis tous les efforts humains possibles et imaginables, par des méthodes humaines, puis se confier dans ce qui nous entoure, c'est pas béni de Dieu. Faut apprendre à avoir confiance en Dieu, à mettre notre foi en Dieu. La question est comment arriver à vraiment mettre notre confiance en Dieu? Comment arriver à ce que je puisse, en tant que chrétien, décider de mettre ma confiance en Dieu puis de voir à ce que Dieu va agir dans ma vie? Bien, il faut regarder certains passages des Écritures. Premièrement, il y a un verset que Dieu nous donne dans 1 Timothée 2:1. Avant toute chose, là, il faut apprendre à tout mettre dans les mains de Dieu. Dans 1 Timothée 2:1, ça nous dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. » Voyez-vous, avant toute chose, avant qu'on entreprenne quoi que ce soit, faut apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Faut apprendre à dire « Seigneur, j'ai telle et telle chose dans ma vie, j'y mettons pour un emploi, j'ai besoin d'un autre emploi. Je remets ça entre tes mains afin que tu prennes le contrôle de cette situation, que tu pourvoies, tu me guides vers le nouvel emploi, ou même pour garder notre emploi, ou pour tous les autres points qu'on a vus tantôt, pour la nourriture, l'habillement, le travail, pour acheter un automobile, pour des guérisons, pour les pourvoir un conjoint, pour notre harmonie dans le couple, pour planifier des projets, peu importe. Toutes les activités de l'Église, les activités spirituelles, il faut apprendre à remettre tout ça dans les mains de Dieu, afin que Dieu nous ouvre les portes, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous moindre de son esprit, que Dieu nous fasse porter beaucoup de fruits. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de rien faire. On est capable de faire plein de choses. Mais c'est toutes les choses que Dieu veut pas qu'on fasse. Parce que Dieu veut qu'on apprenne à dépendre de lui, puis d'apprendre à marcher par lui et pour lui. Puis là, quand on y met entre ses mains, il nous ouvre les portes, il nous remplit de son esprit, il nous guide, il nous conduit, il nous montre les choses, puis il nous fait porter le fruit par son esprit. Première chose, apprendre à tout mettre dans les mains de Dieu. Deuxième chose, demander aussi aux frères et sœurs de prier pour notre besoin. Parce que souvent, on se pense bien capable tout seul, puis on veut rester tout seul, puis on pense que les autres l'ont pas l'affaire, mais que nous autres, on l'a l'affaire, puis qu'on pense de s'en sortir par nous-mêmes. Mais ça fait pas partie du plan de Dieu. Je regrette, là. Mais Dieu veut qu'on apprenne à fonctionner en groupe avec les frères et sœurs. Nous sommes un solide assemblage. Nous sommes un seul corps. Chaque personne est greffée au corps de Christ. Puis nous avons besoin des uns des autres. Puis Dieu, souvent, il veut qu'on ouvre notre bouche, qu'on mentionne notre besoin aux frères et sœurs pour que Dieu mette en œuvre son plan de restauration ou de guérison ou de délivrance ou de pourvoyeur. Dieu veut pourvoir à nos besoins, il veut nous ouvrir les portes, il veut nous bénir, mais il veut qu'on apprenne à fonctionner avec le corps. En Éphésiens 6:18, c'est que Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Ça nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Comment est-ce que je peux prier pour tous les saints si je ne connais pas les besoins des saints? Comment je peux arriver à prier pour les gens qui m'entourent à l'Église si je connais pas leurs besoins? Il faut partager nos besoins, puis après ça, ça nous dit « Priez les uns pour les autres. » afin que vous soyez guéris, que ça nous dit dans la parole de Dieu. Nous devons prier pour tous les saints. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons faire connaître nos besoins aux autres. Nous devons comprendre que quand Dieu nous a dit la promesse que deux ou trois qui s'accordent pour demander une chose, bien Dieu va l'accomplir. Mais ça fait partie du plan de Dieu qu'on apprenne à prier en équipe, en groupe, entre frères et sœurs, compris pour les besoins des uns et des autres, et ça a une grande efficacité. La prière fervente juste a une grande efficacité, puis quand il y en a deux ou trois qui s'accordent, c'est encore plus puissant. Dieu agit encore plus rapidement. Dieu veut répondre, puis il veut qu'on persévère dans la prière. Il veut qu'on apprenne à remettre tout entre ses mains. Tout, avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, qu'on apprenne à lui mettre entre ses mains. Même si on pense qu'on a déjà la réponse, faut apprendre à y remettre entre ses mains. Même si vous allez faire une opération, faire une opération pour faire vous soigner quelque chose, ben apprenez à mettre ça des mains de Dieu auparavant, pour que ça soit que toute la gloire revienne à Dieu. Dieu peut utiliser un médecin, un chirurgien pour vous soigner. Mais Dieu veut que vous appreniez à lui faire confiance, lui. Ensuite, comme autre conseil pour comment arriver à faire confiance à Dieu, mais je dois confesser, nous devons confesser notre foi au secours qui vient de Dieu. Est-ce que je le sais que Dieu peut me secourir? Ou je crois que Dieu, c'est au-delà de sa portée? Je ne crois pas que les situations qu'on vit sont au-delà de sa portée. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Dieu peut toutes choses. Quand Paul dit « Je puis tout par celui qui m'a fortifié », il savait clairement que toute sa capacité de faire ce qu'il avait à faire comme étant dans le ministère qu'il avait été appelé à faire, c'est Dieu qui lui communiquait la force qui était nécessaire pour le faire. Le secours me vient de où? Dans le psaume 12, dans le psaume 121:2, nous dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a pas de secours dans notre compte de banque. C'est une illusion. Il n'y a pas de secours dans mes bras, dans ma capacité de lever les choses, d'avoir une force physique. Il n'y a pas de secours dans mes capacités financières. Il n'y a pas de secours dans les hommes, puis de me fier que j'ai des contacts, puis j'ai des bonnes connexions, puis que je vais réussir à atteindre mes choses parce que j'ai des bons colloques, puis des bons conseils, des groupes de personnes qui font des protestations pour essayer de gagner des points. Ça vient pas de là, le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Faut que j'apprenne à faire confiance que Dieu veut me secourir. Dieu veut m'aider dans ma foi. Dieu veut m'aider dans mes problèmes. Dieu veut m'aider dans toute ma marche chrétienne. Faut que j'apprenne à me confier en lui, à lui demander, à le prier, à le confesser. Une autre place que je dois penser si je veux vraiment démontrer que j'ai confiance à Dieu, mais je vais occuper mes pensées puis mon énergie à servir Dieu. Ouais, mais vous allez me dire, ouais, mais le temps que je sers Dieu, je suis pas en train de m'occuper de mes choses. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas en train de s'occuper de tout ce qui nous appartient, mais ce que Dieu nous a demandé de faire, il faut être fidèle dans ce qu'il nous a demandé. Faut lui faire confiance. Dieu nous demande de faire quelque chose, on va le faire. On va le faire parce qu'on recherche premièrement le royaume et la justice. C'est ce que ça nous dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Il dit, votre Père céleste, il sait que vous en avez besoin. T'as appris à prier, t'as appris à remettre ça dans les mains de Dieu, tu demandes aux frères et sœurs de prier pour toi, tu confesses que le secours te vient de l'Éternel, puis c'est Dieu qui va pourvoir à tes besoins, mais occupe-toi de son royaume et sa justice, occupe-toi de servir Dieu dans les choses que Dieu t'a demandé, dans ce que Dieu t'a appelé à faire. Mets ton temps, mets ton énergie, mets tes pensées à continuer à faire avancer son œuvre, puis Dieu va te donner tout le reste par-dessus. T'as pas besoin de te casser la tête. Dieu sait que t'en as besoin et Dieu pourvoira. Dieu va te donner ce que t'as besoin. Un autre point, quand pour continuer dans la même lignée de pensée, faut apprendre à mettre notre cœur, que notre cœur se repose en Dieu. C'est pas nos soucis, c'est pas nos inquiétudes, c'est pas les tourments qu'on va se donner, c'est pas nos mortifications, même nos si on commence à se frapper le dos avec un bâton puis commencer à se dire je vais gagner mon point en me frappant pis en me faisant souffrir. Non, ça a rien à voir, c'est pas biblique. Non, ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à y remettre entre ses mains les choses, à prier pour les choses, à confesser notre foi, qu'on croit que c'est le Dieu qui va pourvoir. Il veut qu'on s'occupe de son royaume et sa justice. Puis dans Isaïe 30:15, il nous dit, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. » C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand on dit de la tranquillité et le repos qui est votre salut, c'est qu'il faut apprendre à se reposer en Dieu, à avoir une tranquillité d'esprit, être reposé dans l'esprit, avoir la paix de Dieu en nous, avoir confiance qui va faire qu'on se sent en paix. C'est là-dedans que va être notre salut, notre secours. Quand on parle de salut dans ce verset-là, ça veut dire notre secours. Dieu va nous secourir parce qu'on a appris à lui faire confiance, à se reposer en lui. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dieu veut nous donner son repos. Il veut qu'on apprenne à se reposer en lui, mais il faut prendre son joug puis suivre ses instructions. C'est ce que ça nous dit aussi, ce passage-là. Si on s'occupe de son royaume et sa justice, puis on se repose en lui, puis qu'on lui fait confiance, il va nous donner son repos, puis on va se sentir en paix. Les gens vont te regarder aller, ils vont dire, « Hey, ce gars-là, il passe les plus grandes épreuves qu'on n'a jamais vues, puis il passe à travers avec une sérénité, puis avec une paix, puis un repos. C'est pas naturel, c'est pas normal. » Mais ce repos-là vient de Dieu, parce que cette personne-là a appris à se confier en Dieu. C'est ça qui est d'apprendre à faire confiance à Dieu. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter? On peut dire, appuyez-vous sur ses promesses. Dieu a donné des promesses pour tous les sujets, pour tous les besoins de notre vie. Quand Philippiens 4:19, ça nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Quand tu es approché de Dieu, tu as demandé pardon, il t'a pardonné de tes péchés, il t'a donné cet esprit, il a fait de toi une nouvelle créature, il a commencé à agir dans ta vie, aie confiance. Dieu n'a pas l'intention de t'abandonner. Dieu a l'intention de rester avec toi pour toute l'éternité. Toi, abandonne-les pas. Toi, détourne-toi pas de lui. Rejette pas sa parole. Arrête pas de mettre ta confiance en lui. Commence pas à te confier dans ce qui t'entoure. Continue à reconnaître que tout ce que tu as, tout ce que tu es, ça vient de lui. Rappelle-toi d'où ce que tu étais avant qu'il aille te chercher. Rappelle-toi de la misère que tu vivais. Puis rappelle-toi que c'est parce que tu y as fait confiance, puis tu as remis ta vie entre ses mains, que là, ta vie a commencé à changer. Maintenant, tu lui appartiens, puis il veut te conduire, il veut te diriger, il veut te bénir, il veut que tu apprennes à dépendre de lui. Il veut pourvoir à tous tes besoins. Faut que tu apprennes à t'appuyer sur ses promesses. Puis Dieu va agir. Parce que Dieu est fidèle. Ses promesses sont pas oui et non. Ses promesses sont oui et amen pour tous ceux qui s'accrochent par la foi et qui persévèrent. Dieu, il est fidèle. Puis il agira. Dans Luc 18, le verset 7, Jésus qui veut nous encourager par cette parole-là, il nous dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Et tardera-t-il à leur égard? » Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voyez-vous, quand tu cries à Dieu jour et nuit, tu t'attends à ce que Dieu fasse de quoi dans ta vie, mais il va-tu tarder? Non, Dieu va te faire promptement justice. Dieu va répondre à tes besoins parce que Dieu est fidèle. Nous voyons la main de Dieu tous les jours, si on le voit pas, c'est parce qu'on s'en rend pas compte qu'il a agi. On a des pensées, on a des prières, puis Dieu y agit. Des fois, on oublie ce qu'on a demandé, mais Dieu lui oublie pas. Il souffre pas d'Alzheimer. Dieu, il continue d'agir. Continue à crier à lui, à crier jour et nuit. Continue à lui demander et faites-lui confiance. Déposez votre fardeau à ses pieds. Reposez-vous en lui. Confessez que vous croyez que c'est lui qui va pourvoir et confessez ses promesses. Et occupez-vous du royaume de Dieu. Et occupez-vous des choses de son royaume, puis lui va s'occuper de vos affaires. Abandonnez-les pas. Mettez votre confiance en Dieu. Faites-lui confiance et il agira. La question du début, faites-vous confiance à Dieu? Mais là, vous venez de voir comment faire confiance à Dieu. Si vous n'avez pas encore mis, faites la paix avec Dieu. Je vais faire une prière avec vous pour vous donner l'occasion de recevoir ce pardon-là qui est en Jésus-Christ et de pouvoir commencer cette nouvelle vie en communion avec lui. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Je reconnais que mes péchés, mes transgressions m'empêchent d'obtenir toutes tes promesses, tout ce que tu as annoncé dans ta parole. Mais je crois que Jésus est venu, voilà 2000 ans, pour mourir sur la croix, pour payer pour la dette de mes péchés. Il est mort sur la croix pour me racheter. Je crois que son sang qui était versé, c'était dans le but de me pardonner de mes péchés et me donner la vie éternelle. Je l'accepte comme mon sauveur. Je l'accepte comme mon Seigneur. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit, prends ma vie et conduis-moi dans tes voies. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a entendu et que Dieu pardonne tes péchés, que Dieu te donne son Saint-Esprit. Maintenant, il est entré en toi et qu'une nouvelle vie commence, une vie en communion avec l'Esprit de Dieu. Je t'encourage à joindre une église locale, aller dans une église évangélique proche de chez vous pour aller entendre la parole de Dieu. Je t'encourage à aller sur mon site publication-évangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont te bénir, qui vont te fortifier dans la foi, qui vont t'aider à avancer dans ta nouvelle marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine et que Dieu vous bénisse.